كنا كنا عاشقين في دينكم سنة إن كنا كنا عاشقين في دينكم سنة سبيل من حضر
صديري سلبارة يحل العين مذبل الشفار صديري سلبارة سلبتني يا خايب
النجف الخمر بها الله أعطاني نتمتع في الورد والزهر
صديقي البارح كحل العين مذبل الشفار صديقي البارح سبتني يا خايب
دايمنا ترشا انا يا ملي ما يدي الصبر عقلي طار معاها وغير الله يجود بالصبر
سليمي تلبى
صبرينا لوحداني مول الملك الغاني ولعل سلطاني يجمع شملنا ومنهجر من خربات ديواني من كتاق لي خاطر انقهر
صغيري سلمى
سحر به جميع من أجا من خربات ديواني وغيره ما عنده قهر
صغيري سلمانح يحلى العين مدبل الشفار صغيري سلمانح سلمتني يا خايب
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville en cette soirée du 19 janvier 2008. Avec vous au micro et à la technique, Lamine. Comme déjà annoncé sur le site Algéro Web, ce soir, on va parler des mosquées à Montréal, des imams à Montréal. Pour ceux qui ont suivi le documentaire qui vient de se terminer normalement sur RDI et qui a été diffusé jeudi passé sur Radio-Canada, un documentaire réalisé par une compatriote, Nadia Zouaoui, concernant les imams et les mosquées à Montréal, la gestion des mosquées à Montréal. Et avec nous ce soir, monsieur Cheikh Omar Kone, imam à la mosquée Al-Iman, donc qui a été aussi un des intervenants sur le sujet dans le documentaire. Il sera avec nous à Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville ce soir jusqu'à, comme d'habitude, jusqu'à minuit. Bien sûr, vous serez aussi avec nous pour ceux qui veulent participer, comme d'habitude, au 514-495-2597. Commencé notre émission le 19 septembre 1918 est né un grand maître de la musique algérienne, un grand maître aussi de la musique de l'exil, Slimane Azem.
Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Donc, c'était notre hommage à Slimane Azem, qui est né le 19 janvier 1918. On revient donc à notre émission avec notre invité, comme j'avais mentionné au début, cher Omar Kone. Pour commencer, cher Omar Kone, bienvenue à notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation, bien qu'elle est venue vraiment de dernière minute.
C'est avec grand plaisir, merci beaucoup, bonsoir à tous.
Donc le sujet d'aujourd'hui, on parle des mosquées à Montréal, on parle de la problématique qui a été mentionnée au niveau du documentaire des imams. Première question très générale, monsieur Omar Kone, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la gestion et surtout sur la question des imams à Montréal?
Un problème, oui, certainement à mon avis, parce que nous avons des communautés d'immigration qui arrivent ici et qui, donc, pour l'exercice de leur foi, ont besoin de se référer souvent à des imams, donc ceux qui dirigent les mosquées. Et malheureusement, des imams issus des nombreuses et des différentes tendances que nous avons, mais également issus de cultures, de traditions différentes, parfois des imams donc de tendances peu orthodoxes, parfois également des imams qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas la culture, qui sont peut-être amenés à avoir ces fonctions au niveau des mosquées sans avoir toute la formation et les compétences nécessaires par rapport à la réalité du terrain, à la culture locale, aux traditions, aux us et coutumes. Ce n'est pas une généralisation, mais c'est une problématique que l'on retrouve, même si dans la majeure partie des cas, l'exercice se passe assez bien. Il y a toujours des faits à dénoter à ce propos. Donc, une gestion un petit peu difficile par rapport à ces lieux de culte.
Est-ce que le problème, d'après vous, il est lié à la diversité ethnique de la communauté, à la diversité même idéologique ou des différentes écoles qui existent, ou est-ce que c'est un problème qui est lié à l'absence d'une autorité plus ou moins, on peut dire, unifiée pour au moins permettre une certaine régulation de la gestion donc du culte de la communauté musulmane ici au Québec et au Canada en général?
Je pense qu'il y a les sources sont multiples. Il est certain que au niveau de la communauté, les différences doctrinales, les différentes interprétations, les différentes écoles de pensée n'aide pas à la bonne gouvernance des mosquées, parce que les tendances vont de toutes sortes d'écoles, parfois certaines très radicales, peut-être parfois trop orthodoxes, à des écoles un peu plus modéré, et les variances des écoles de pensée, des écoles doctrinales, des écoles de jurisprudence en islam sont nombreuses. Donc on se retrouve localement avec une myriade d'écoles de pensée. Donc les gens ne vont pas toujours pouvoir se référer aux écoles de pensée auxquelles ils adhèrent, parce que souvent on va aller à la mosquée qui est au coin de chez nous, et s'asseoir, écouter les prêches en respect de certains imams, d'une certaine autorité. Mais malheureusement, cela ne correspond pas à l'islam dans lequel nous avons grandi, nous avons baigné, ou parfois, tout simplement, ça ne correspond pas du tout à la vision des choses que nous avons, mais nous n'avons pas le choix. Si l'on veut fréquenter un lieu de culte, on doit prendre la saveur locale. Donc, oui, les tendances sont nombreuses, certaines sont assez questionnables aujourd'hui, même ici à Montréal, au niveau de certaines mosquées, il faut se l'avouer. De l'autre côté, la difficulté au niveau de ces mosquées n'est pas simplement par rapport aux tendances, mais également parce que il y a un décalage entre la réalité de la communauté musulmane au niveau de la foi, au niveau de la doctrine, lorsqu'elle est pratiquée d'une certaine façon, et des réalités quotidiennes. Je veux revenir sur l'autre volet de votre question, si vous voulez me la rappeler.
L'autre volet, ça concerne essentiellement l'organisation du culte en termes de manque d'autorité. Il serait intéressant pour peut-être les auditeurs qui ne sont pas donc issus des pays à majorité musulmane, est-ce que c'est possible d'expliquer ce qui se passe dans les pays musulmans en termes d'organisation du culte pour expliquer l'absence d'une autorité unifiée dans les pays d'immigration, vu que les laïcités occidentales font en sorte qu'il n'y a pas une intervention de l'État pour gérer les différents cultes?
En effet, traditionnellement dans le monde musulman, il y a une absence de clergé comme on le connaît en Occident. Donc cette organisation centralisée avec une hiérarchie bien établie et une nomination du sommet vers la base. Cela n'existe pas en islam, mais cela ne veut pas dire qu'il y a une absence d'un encadrement de la foi, de la formation des imams, des idées qui sont véhiculées. Lorsque vous visitez, traditionnellement, lorsque l'islam était sous un empire, donc le dernier empire et les empires qui ont succédé, les sultans avaient quand même la gouvernance et un droit de regard sur la façon dont le dogme était appliqué. Il y avait un conseil de savants, des écoles avec une certaine hiérarchie de savoir, donc des mouftis, ce qu'on appelle des grands imams, qui s'assurait que les écoles de pensée étaient en conformité avec la tradition, étaient des écoles modérées, étaient des écoles qui respectaient les principes dogmatiques les plus élémentaires. Aujourd'hui, donc, dans les pays musulmans, se sont substitués à cette autorité de base, donc l'État, ou alors à travers directement, par exemple, des institutions comme le ministère de la Religion, ou alors à travers d'autres institutions comme des grandes écoles. On peut penser au cas de l'Égypte, où vous avez des conseils de savants donc qui s'assurent de la bonne discipline au niveau de la religion, de la bonne compréhension et de la bonne saveur doctrinale. Les imams donc peuvent être soit localement promus par une communauté, mais surtout de plus en plus, les imams doivent être accrédités par l'État lors de leurs prêches. On pense notamment au cas du Maghreb, bien entendu, au cas de la Turquie, ou au cas d'un certain nombre d'États du Moyen-Orient, où ne peut pas être promu n'importe qui. On doit s'assurer qu'il y a un minimum de savoir, qu'il y a une connaissance de base, qu'il y a également une certaine rectitude par rapport à la doctrine, surtout au cœur de la foi, de la façon dont les gens comprennent la religion. Aujourd'hui, en Occident, on trouve surtout en Amérique du Nord, une certaine liberté par rapport aux différentes écoles de pensée. Donc, aucun encadrement. Les différentes écoles évoluent au rythme de leurs moyens, au rythme des influences qu'elles peuvent recevoir, des coups de pouce qu'elles peuvent recevoir, tant bien que mal. Donc, se retrouvent parfois et assez fréquemment à la tête de certaines organisations, de certaines congrégations, de certaines mosquées. Donc, des individus qui n'ont pas un minimum de formation, qui ne répondent pas à un certain nombre de critères, qui n'ont pas une connaissance minimale donc des us et coutumes des différentes institutions locales, de la loi, des traditions, qui ont également une vision de l'islam qui ne permet pas donc cette fameuse intégration au niveau de la société, car favorisant une sorte de réclusion sur la communauté. Donc ce problème existe en Occident. Il a commencé à être adressé notamment en Europe. Nous connaissons le cas de la France, le cas de la Grande-Bretagne maintenant, qui a pris les devants, mais également le cas de l'Espagne, mais l'Amérique du Nord étant un territoire où habituellement la religion est très libre, nous ne voyons pas ce genre d'encadrement pour l'instant poindre ici au Canada et particulièrement au Québec.
Mais est-ce que vous pensez que au sein de la communauté, au moins, il se peut qu'il y ait des initiatives qui vont permettre au moins une certaine régulation, parce que dans la réalité des choses aujourd'hui, n'importe qui peut louer un 4,5, l'annoncer comme étant une mosquée, se proclamer imam, et avec le temps, les gens vont donner des dons, il va agrandir le local, et avec le temps, il pourra participer déjà à titre d'exemple sur la question du mois du Ramadan. Le premier jour du Ramadan à Montréal est fêté presque sur 3 jours. La même chose pour l'Eid al-Fitr, la même chose pour l'Eid al-Kbir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de la communauté, il se peut qu'il y ait des initiatives, en attendant le deuxième volet de la question qui arriverait plus tard sur la question de l'intervention de l'État et avec la contradiction au niveau d'un État laïque? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de la communauté déjà, est-ce que les différentes idéologies, vous pensez qu'ils seront prédisposés à faire une initiative pour réguler au moins cette situation?
Cela arrive tranquillement. Je pense que nous avons assisté dans les dernières années à de nombreux contacts entre les différents leaders de la communauté musulmane, à une certaine organisation. Bien entendu, les initiatives sont nombreuses. Malheureusement, les gens en charge des différentes mosquées ou institutions religieuses musulmanes n'ont pas toujours les moyens, n'ont pas toujours le temps, mais il faut constater que sous la pression notamment des médias, la pression concernant la question musulmane, la question des communautés musulmanes, les différents leaders des différents groupes, des différentes institutions ont été forcés de commencer à collaborer, parce que lorsque un individu était remis en question, cela pouvait être acceptable, mais lorsque c'était la tradition, c'était l'islam en général, la communauté musulmane qui était pointée, les gens ont commencé à se dire c'est une remise en question qui concerne beaucoup de monde. Il va falloir que l'on s'unisse, il va falloir que l'on se parle, il va falloir que l'on arrive à un terrain commun pour pouvoir faire des choses de façon éclairée, pour pouvoir faire des choses ensemble, pour dénoncer tout ça, pour essayer de faire baisser, par exemple, cette tension qu'il y a à l'encontre de la communauté musulmane. Donc, oui, il y a des initiatives. Nous avons vu, par exemple, au niveau, peut-être pas ici encore à Montréal, malgré le fait que peut-être certaines mosquées ont suivi, mais au niveau de l'Amérique du Nord, donc lors des déclarations du début du mois de Ramadan ou de la fin du mois de Ramadan, surtout chez nos voisins du Sud, il y a une initiative avec Islam et avec la société de fiqh nord-américaine d'essayer d'harmoniser une date pour pouvoir favoriser donc les congés au niveau scolaire. Donc certaines mosquées, parfois elles ont été très nombreuses, ont commencé à s'harmoniser dessus. C'est certain qu'il y a toujours certains qui veulent faire de leur propre école, mais tranquillement il y a une organisation, les différents leaders, les différentes tendances de bonne volonté, je dirais assez modérée, sont unanimes pour se dire qu'il faut s'organiser, il faut communiquer, il faut partager l'information, il faut se mettre sur la même longueur d'onde. Donc cela s'organise, oui, tranquillement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que les tendances sont assez variées, sont assez nombreuses. Les occasions de dialogue ont été créées, ont été bien entendu dans la grande majeure partie des cas étaient bien accueillis par les différents leaders, par la communauté. Nous continuons à faire le travail. Il est important d'abaisser ces fameuses barrières que l'on appelle doctrinales, d'arrêter des chicanes qui parfois sont sur un certain nombre de détails. Nous voyons les choses d'une certaine façon et les autres de l'autre façon. Cela ne nous empêche pas de nous asseoir autour d'une table et lorsqu'il s'agit du cœur de la chose, de parler d'une voix.
Je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb et ce soir on parle sur la question de la gestion des mosquées, de la nomination des imams suite au documentaire qui a été présenté à Radio-Canada dans l'émission Enquête sur les imams qui a été diffusé jeudi la première fois sur la chaîne donc nationale Radio-Canada et qui a été diffusé il y a presque 30 minutes sur RDI. Et notre invité ce soir c'est Monsieur Omar Cheikh Omar Kone qui est imam de la mosquée Iman. Je vous rappelle que pour participer à notre émission on pouvait téléphoner au 514-495-2597, 514-495-2597. Cheikh Omar Kone, vous avez parlé, on peut dire, vous avez fait comme une description de la situation à travers donc les pays occidentaux d'une façon générale, en particulier peut-être Montréal. Mais avant de passer, qui serait la deuxième partie de notre émission, avant de passer aux pistes de solutions, surtout sur la question des possibilités de l'intervention de l'État dans des pays occidentaux pour essayer d'aider les communautés musulmanes à s'organiser, la question que je vous poserai, c'est essentiellement au niveau du documentaire. Comment voyez-vous le documentaire par rapport à la description de la réalité?
Je pense que sur un temps aussi court, il est peut-être difficile de refléter toute la réalité, toute la diversité, toute la complexité de la situation. Mais le documentaire, à mon avis, était assez fidèle à une certaine réalité sur le terrain. Il a été bien fait, il a présenté un certain nombre de faits, il a présenté donc la problématique, les différentes tendances, le fait qu'il y a très peu d'encadrement et de règles pour la nomination des imams, la difficulté que les communautés ont à trouver des imams. Et à mon sens et à mon avis, je pense que c'était un documentaire qui a été bien monté, il y a beaucoup de travail en arrière et qui reflète la problématique en général, même si il y a des exceptions, bien entendu. Je sais que j'ai eu des commentaires à la fois positifs, mais des commentaires négatifs, dépendamment des tendances qui ont regardé le documentaire, bien entendu. Mais je trouve que le travail a été vraiment excellent.
Merci. On va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir avec vos appels.
برنامج الوفاء الجديد سفر فلاير تواصل للخطوط الملكية المغربية
طبعا أنبياء الأسرة كلها حسب واحد مشترك هذا رائع
مع تواصل متعة السفر مع الخطوط الملكية المغربية تزدها متعة أخرى غير اشتركنا في تواصل فزنا بسرعة تذكرة سفر مجانية
مع سفر فلاير تواصل برنامج الوفاء الجديد للخطوط الملكية المغربية سواء سافرتم معنا أو على انفراد تجمعون الأميال في حساب مشترك للأسرة وتفوزون بسرعة أكبر بتذاكر طائرة مجانية لا تتأخر انخرطوا في سفر فلاير تواصل واستفيدوا من هذا الامتياز الرائع الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب.
Retour à l'émission Taxi Maghreb et le sujet ce soir, on parle de la question de la gestion des mosquées et de la nomination des imams. Avec nous, notre invité, Cheikh Omar Kone, qui est imam de la mosquée, donc l'imam qui n'est pas très loin du siège de la radio sur la rue Ferman. Et notre numéro de téléphone, je le rappelle, c'est le 514-495-2597. Il faut nous mentionner que notre émission vient à la suite du documentaire qui a été diffusé sur Radio-Canada et qui est sur le site donc d'Algeroua.tv pour ceux qui l'ont raté. On va prendre les appels et on va revenir avec notre invité. Donc je vais prendre le premier appel. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir.
Allô.
Oui, bonsoir.
Allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam. Je connais Marana.
Abdelkader. القادر خويا لامين.
واش راك خويا عبد القادر صافا بيان؟
من عندكم يا سيدي وراك؟
رانا هنايا
مونريال.
52 بولفار سان لوران.
الله يعطيك الصحه يا خويا. الله ربي يخلينا عليك.
الله يسلمك ربي.
صافا
صافا
الحمد لله.
وي عبد القادر واش رايك في السوجي تاع اجوردي؟
لو سوجي
اه
والله واش حبيت نقول لك اخويا
كيفاه؟
انا حاجه برك خويا لامين
اه
انا حبيت نفوت واحد السلام واحد الناس اللي زارغومان راه عندنا هنايا في مونريال.
اوكي.
عندنا الاخ مولود لونسي لوان ديفي.
اوكي.
وسي مصطفى قتاليك لونسان ديفي وزوجها ديالو قتاليك صافية ونبيلة ولافامي تاعي
الله يبارك
وكل تزيرين وتزيريات اللي راهم عندنا لهنايا وكل امه المسلمه.
يعطيك الصحه خويا عبد القادر.
ولو سوجي على بالك انا ما تبعتش بزاف تري بيان خويا لامين سي كوا لو سوجي بيني وبينك؟
لو سوجي اليوم كاين ان دوكيومونتير جاز في راديو كندا سور لا جيستيون دي موسكي.
ايوا
لا نوميناسيون دي زيمام شغل شويه الفوضى هذه اللي نايضه دي فوا تسمى اسكو راك شايف تبلي لا جيستيون دي موسكي دركا ال بوز با دو بروبليم على كوميونيتي تكبر ولا اسكو فو با كو لي جون سورغانيز بور كي او موين اون اوتوريتي با بور امبوزي ان سول بوين دو في مي او موين بور فير اون ريغولاسيون او نيفو دو لا جيستيون.
Non, mais cela, c'est impossible. Elle ne va pas faire de problème. Écoute, je ne vois pas pourquoi ça. Écoute, regarde au niveau de l'Algérie, il y a la plus grande mosquée qui va se construire. Après celle du Maroc. C'est Mohamed Khamis. Alors, on ne voit pas pourquoi il y aurait des problèmes ici. Le seul problème, nous autres, qu'on a, ce n'est pas le problème de la mosquée comme telle. C'est le problème de notre communauté actuellement. On ne sait pas ce qu'on est imam, on ne sait pas qui représente la communauté musulmane, on ne sait pas qui est mandaté pour nous représenter. Alors, c'est ça notre problème. Mais du point de vue du gouvernement, ils savent très bien qu'il y a des Algériens qui sont musulmans, qui sont aptes justement de ce côté-là, qui sont très bien calés. Mais le plus gros problème, lorsqu'il y a un débat à faire, pour faire passer le message à travers la planète, c'est que ce gars-là qui est placé pour répondre, alors c'est ça le problème. Donc il nous faut quelqu'un qui est là, qui sait très bien qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, Dostour Samawi. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau de ça, ça pose pas de problème. On est musulmans depuis des millénaires, ils le savent. Il y a des catholiques ici depuis des millénaires, il y a des juifs des millénaires. Alors comment on pourrait faire la comparaison à l'islam? Donc il est là. Alors voyez-vous, après le 11 septembre, ce qui s'est passé, la publicité qui a été faite gratuitement. Les États-Unis l'ont fait concernant l'islam. Les musulmans ont fait ci, les musulmans ont fait ça. On s'y rendu compte, les Américains, à date, ils ont eu peut-être 0,5 qui sont devenus musulmans. Alors, je ne crois pas que ça va nous poser des problèmes. Voilà.
Yatek Saha Abdelkader pour votre appel.
Merci.
Yatek Saha. Donc, je prends un autre appel à lui. Bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Lamy.
Oui, Belkacem, ça va bien?
Ça va, et vous?
Très, très bien.
Bonsoir pour votre invité, et bonsoir
Omar
à tous.
Bonsoir.
Premièrement, je ne sais pas si vous allez accepter mon point de vue, on n'a pas de mosquée ici à Montréal. On a des salles de prière.
Ok.
À preuve du contraire, même en France, il n'y avait pas de mosquée, il n'y a que la seule mosquée de Paris, je crois, la seule mosquée de Lyon qui a été construite par des Saoudiens. Ici à Montréal, on a des salles de prière. Donc déjà l'organisation du mosquée Mekench. Et je ne sais pas, on vit le problème que vivait la France auparavant. Par exemple, la France, chaque communauté, turque, algérienne, égyptienne, chacun y ramène son imam. Et ces imams-là, on leur ramène des imams d'après notre courant idéologique, pas islamique. Donc ici à Montréal, c'est la même chose. Chaque communauté ramène son imam, choisit un imam et l'installe à la mosquée sans concerter n'importe qui. Donc une désorganisation totale. Le deuxième point, je vais citer un problème qui a été déjà... on a parlé plusieurs fois dans cette antenne qu'on n'est même pas capable de faire le ramadan dans un seul jour. Et on nous a promis, les imams Jaziri, l'autre fois, il a promis que cette année, on va s'organiser et que le ramadan est comme... Mais le ramadan, maalich, on chauffe l'halal et tout. Mais l'aïb le kbir, كبير عرفات سيتي ان مردي و ان مركدي جي اوبلي لا دات اي دونك اون نو دي ك العيد سي با لو سي با لو جودي سي لو فوندردي باغ اكزومبل مي كاين وقف عرفات وحده دونك يا اون سول او لي جون ils se regroupent à Arafat donc je vois pas l'aide et là ça fait dit paradoxal par exemple la commission scolaire de Montréal elle a beaucoup d'éducatrices qu'elles sont musulmanes donc on leur a envoyé que l'aide c'est le deuxième jour de Arafat c'est le troisième jour de Arafat donc je sais pas qui a envoyé cette information. Et donc, ils ont mis ces éducatrices dans un problème immense avec leur employeur. Donc, je cite des exemples pareils. Donc, ma deuxième question, sur quels critères ils sont désignés les imams? Pourquoi pas faire, comme la France, une école pour les imams, des gens d'ici,
qui vont être formés ici à Montréal
pour être imams? Et je vous remercie et bonne écoute.
Merci beaucoup, Yadexa. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Je pense que ça c'est. J'ai perdu une. Bon, je prendrai l'appel. Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum. C'est pour l'émission en taxi magasin.
Oui, vous êtes sur l'onde. Votre nom, s'il vous plaît.
Saïd.
Très bien, Saïd. Oui, bonsoir. Oui, allô. Oui, Saïd. Saïd.
Oui.
Vous êtes sur les ondes, hein.
Ah, merci. Hein.
Ok. Allô, Saïd.
Salam alaikum, bonsoir.
Salam, oui, bonsoir.
Bonsoir, Cheikh. Cheikh Kone.
Oui,
moi, j'ai juste une petite remarque. C'est-à-dire, on veut prendre sous tutelle les mosquées, parce qu'il y a des mosquées, c'est pas uniquement des salles de prière, je présume. Donc, on veut les prendre sous tutelle. Est-ce que cette tutelle, elle va aller jusqu'à leur dicter les prêches? Donc c'est le premier point. Le deuxième point, il y a énormément, par exemple, il y a plein d'imams qui adoptent un certain discours assez, disons, édulcoré. Même, je dirais même, une version édulcorée de l'islam. Je pense que c'est un peu le cas de Cheikh Kone, à mon avis. Hein. Et, donc, mais ça, c'est très loin des préoccupations des musulmans. Bon, l'intégration, bien sûr, il faut mettre l'accent sur l'intégration. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, par exemple, le problème que vivent, la tragédie que vivent les Palestiniens, on ne peut pas l'occulter, à mon avis. Parce que les musulmans, c'est-à-dire, c'est comme un organisme, tout un organisme. Donc, quand un membre est souffrant, c'est toute la nation qui est souffrante. À mon avis, bon, c'est peut-être, vous pouvez considérer ça comme, c'est un peu naïf, mais à mon avis, on doit prendre en considération toutes les préoccupations de la communauté musulmane.
Saïd, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le documentaire?
Oui, bien sûr, je l'ai vu deux fois, bien sûr, absolument, oui. Mais le documentaire, c'est du déjà vu, ça. C'est des choses qu'on a vues, il n'y a rien de nouveau dans le documentaire. Parce que, écoutez, il y a un besoin, ok? On sent qu'il y a un besoin de d'encadrer la communauté musulmane. Alors, tu vois, vous voyez, on commande un documentaire comme ça, et on a l'occasion de le voir, mais il n'y a rien de nouveau dans le documentaire. C'est un discours qu'on connaît.
Mais ça aide, d'après vous, est-ce que, aujourd'hui, la nomination des imams, la gestion des mosquées, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous que les préoccupations des musulmans, ils sont au niveau de l'emploi. Comme tous les immigrants, c'est des nouveaux arrivants, ils cherchent un emploi, ils cherchent une intégration professionnelle, sociale.
Mais moi, j'irais au-delà de l'intégration. Il y a d'autres problèmes également.
Non, bien
parce
sûr.
Que, c'est quoi un imam? Un imam également, c'est un leader religieux. Un leader religieux, il doit toucher à tous les problèmes. Dans son discours, il doit toucher à tous les problèmes des musulmans. C'est ça. Donc, mais là, votre question, je m'excuse, je vous ai interrompu. Oui. Donc,
au fond, la question que je voulais vous poser, Saïd, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au sein de notre communauté, ce désordre, entre guillemets, hein, peut-être c'est un mot très fort, nous pose aussi problème parce qu'il nous pose un problème d'image. Quand un média va chercher un imam, ils n'ont pas inventé l'imam.
À travers l'émission, le programme, le film, là, oui. Le documentaire. On remarque rapidement que ceux qui posent des problèmes, parce qu'il y a énormément de problèmes, il y a des imperfections, je dirais même. Ceux qui posent des problèmes, c'est, bon, on parle surtout de l'imam d'origine haïtienne. Alors, il est même de mère québécoise, si je me souviens bien.
Oui, je pense.
Donc, c'est quelqu'un qui connaît quand même la réalité. Il est converti, il s'est converti à l'islam, il connaît la réalité québécoise. Donc, c'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qu'on a parachuté de l'extérieur parce qu'il connaît pas ce qui se passe ici, donc il crée des problèmes et tout.
Oui, mais ça aide pour...
Non, ça, mais... ce qu'on dit à propos, un nouvel arrivant, c'est pas quelqu'un qui connaît pas la société québécoise.
Oui, non, mais il faut faire attention parce que j'ai lu quelque chose sur ça. Je pense que c'est une incompréhension du documentaire. Le documentaire, il dit pas du tout que le problème, c'est un problème de nombre d'années de présence au Québec. Le documentaire...
Il y a certaines insinuations, à mon avis.
Non, le problème...
Ça fait 40 minutes, je viens de le voir. Il y a une insinuation...
Il y a deux choses.
Le background ici, le vécu, la société québécoise, comment elle fonctionne.
Mais ça, c'est indiscutable qu'il faut connaître. Maintenant, est-ce qu'on peut le connaître sans avoir vécu 20 ans, 30 ans? On peut le connaître en ayant vécu 2, 3 ans.
Oui, absolument.
Mais c'est ça. Mais le documentaire.
L'imam, avant tout, il doit être un leader religieux. C'est quelqu'un qui doit avoir des qualités.
Parce que vous avez mentionné un point très important, je voudrais quand même. Parce que j'ai lu quelque chose sur le net qui fait référence au nombre d'années. Le documentaire n'a pas du tout mentionné le nombre d'années. Il a mentionné une exigence. Et je pense que quelqu'un
de rationnel... La connaissance de la société québécoise.
Ça, c'est une nécessité. Ouais. Moi, je pense qu'un imam ne peut pas parler...
Mais d'après vous, qu'est-ce qui est plus important? La connaissance de l'islam ou bien la connaissance de la société québécoise? C'est ça la question qui se pose également. Ok, mais ça, c'est problème.
La connaissance de l'islam, c'est une évidence.
C'est un faux problème. Parce que, ok, on peut former des imams ici. Il y a
un imam qui connaît ni français ni anglais. Mais ça aide. Un imam qui connaît ni français ni anglais.
Mais quel genre de tutelle avoir sur les imams? Parce que, bon, maintenant, par exemple, on voit très souvent l'imam qu'on est à la télévision. Mais l'imam qu'on est quand même, il présente une version extrêmement édulcorée de l'islam. C'est ça, il ne pose pas les vrais problèmes. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu M. l'imam Kone parler des souffrances des Palestiniens, sincèrement. Il faut dire ce qu'il en est. Pourtant, moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste ou bien. Je le dis avec toute sincérité. Hein.
Salam alaykoum, Saïd.
Donc, les problèmes d'intégration sont immenses, bien sûr. Ils ne peuvent pas occulter les autres problèmes.
Je vais répondre brièvement aux deux points que vous avez soulevés ces dernières années, je vous ai rencontré quand même
aux accommodements au forum concernant les accommodements raisonnables et tout. Bon, il y a des problèmes que vous occultez quand même.
Laissez-moi répondre brièvement aux deux questions que vous avez soulevées, notamment concernant la tutelle. Jusqu'où va aller cette tutelle? Nous ne parlons pas d'une tutelle des lieux de culte.
Parce qu'on a vu, je m'excuse, juste une phrase. Concernant la tutelle, on va laisser Saïd, c'est pas une tutelle normale, les mosquées sont sous la coupe des régimes, c'est ça, je m'excuse.
Ouais, on va laisser sur Omar répondre et après
Nous ne parlons pas d'une tutelle de la religion, ce serait quasiment impensable ici. C'est simplement d'un encadrement par rapport à certaines idées qui créent chez les musulmans des dérapages. Et il faut se rendre compte à l'évidence, vous êtes du Maghreb, l'Algérie a connu une tragédie qui a fait des dizaines de milliers de morts, ce ne sont pas des étrangers qui ont commis ces actes-là. Il y a certaines tendances en islam aujourd'hui qui poussent vers un extrémisme, qui poussent vers une compréhension radicale, où souvent donc de jeunes musulmans et des moins jeunes vont avoir certaines idées, certaines compréhensions de la bonne conduite en islam qui troublent l'ordre public, qui dérangent un peu et qui incitent à une certaine violence. Il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas se cacher la vérité à ce propos-là. Donc nous ne parlons pas d'une tutelle qui va aller jusqu'à dicter les prêches et ainsi de suite. C'est simplement d'aider à organiser, de s'assurer au moins que les imams ont un minimum de connaissances de la société, des différentes institutions, des différentes institutions sociales auxquelles ils peuvent se référer, notamment pour traiter les différents problèmes qui peuvent survenir au sein de la mosquée. Lorsque vous avez des gens ici qui ont une problématique au quotidien, qui doivent affronter une communauté qui est un peu différente sur le mode de vie et le mode de pensée, si l'imam ne connaît pas la problématique de ce que c'est que vivre dans un milieu québécois, comment il peut comprendre la problématique de ces adeptes, de ces disciples qui viennent à la mosquée et qui doivent confronter cela tous les jours au niveau de leur travail, au niveau de leurs emplois, au niveau de leur recherche de ci ou leur recherche de ça. Il est donc important, dans la bonne fonction, dans la bonne guidance, dans la bonne gouvernance, parce que l'islam n'est pas simplement à propos de principes religieux, l'islam c'est un code de vie. Et le code de vie s'applique à l'endroit où vous vivez. Donc, je ne parlais pas d'une tutelle militaire comme on peut l'avoir au niveau de la Turquie. On dit que c'est organisé, oui. On peut aider les communautés à mieux faire le travail, mais également, il faut, lorsque certains discours sont un peu trop va-t-en-guerre, sont un peu trop radicaux, il faut faire attention. Parce que les premières victimes de ça sont ceux qui vont avoir la mauvaise compréhension et qui vont commettre des actes qui ne sont pas conformes à l'islam. Et par la suite, ces actes-là vont finir par déborder sur l'ensemble de la communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la communauté musulmane se fait pointer. S'il n'y avait pas eu tous ces actes à travers la planète, on peut dire ce qu'on veut. Certains musulmans ont commis des actes qui ne sont pas de l'esprit de l'islam et qui aujourd'hui débordent sur l'ensemble de la communauté. Donc je ne voulais pas parler de cette tutelle. Par la suite, pour parler des sujets que l'on retrouve un peu partout, vous avez dit que j'ai une version édulcorée peut-être de l'islam. Vous n'avez jamais mangé avec moi même un repas pour savoir quelle est ma doctrine et quelle est ma pratique religieuse. Donc je trouve ça un peu avancé pour dire que j'ai cette version-là. Parce que peut-être j'apparais un certain nombre de fois dans les médias pour traiter des sujets. Lorsque vous venez sur un plateau, vous traitez d'un sujet. La question palestinienne est un problème, oui, qui concerne le monde entier, qui concerne la communauté musulmane, mais ce n'est pas un problème qui va nous dicter les affaires intérieures au niveau du Canada et au niveau de la communauté musulmane. La communauté musulmane, oui, doit être militante à ce propos, parce que c'est un problème qui est connu, bien entendu, mais ça ne peut pas en aucun cas être le sujet cœur de toutes les préoccupations de la communauté musulmane. Vous dites que je ne m'occupe pas des problèmes qui sont sérieux, mais avant d'aller regarder la communauté palestinienne, vous avez ici à Montréal, au niveau de la communauté musulmane, un taux de divorce élevé, des enfants qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs parents, des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, des gens qui sont en dépression, des gens qui sont en questionnement, des gens qui sont dans toute une série de problèmes. Et les imams passent leur journée, sont débordés jour et nuit à régler ces problèmes-là. Donc on ne peut pas, vous ne pouvez pas me dire que nous ne regardons pas les questions les plus fondamentales. La question des Palestiniens est une question donc à tendance politique, parce qu'il y a des enjeux politiques majeurs derrière. La fonction principale des imams, malheureusement, n'est pas de traiter du politique. C'est surtout de traiter du social et donc de l'aspect religieux. Le politique est entre les mains de la gouvernance des États, est entre les mains du pouvoir exécutif et non pas entre les mains des imams qui, oui, doivent sensibiliser par rapport à un certain nombre de choses, mais ne doivent pas en faire leur discours principal.
Merci. Donc, on va revenir avec les appels. Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est Samer, je suis journaliste à Montréal.
Oui, c'est Samir Ben, donc correspondant du journal Watan. Vous êtes sur les ondes, Samir.
Bonsoir Lamine, bonsoir Monsieur Cheikh Omar Koné.
Bonsoir Samir.
Moi, ma question je voudrais bien poser à Cheikh Koné, c'est pourquoi attendre jusqu'à ce que Radio-Canada diffuse son documentaire pour montrer cette mobilisation? Ça d'un côté. D'un autre côté, pensez-vous que ce que vous êtes en train d'appeler à choisir les imams, est-ce que c'est possible dans un islam où il n'y a pas de clergé? Vous êtes d'accord avec moi qu'en islam, on n'a pas de clergé, donc un imam, on peut être imam sans être désigné par l'État. Surtout, encore plus fort quand c'est un État laïque. J'ai une autre question à propos de vous. Quand vous avez parlé, monsieur Cheikh Koné, vous avez utilisé le « nous ». Est-ce que c'est juste une façon de parler ou vous commencez déjà avec d'autres imams à dire les choses? Et je vous remercie.
Donc on revient à vous, cher Omar Koné.
Pour votre première question, je pense que je me suis focusé sur vos deux autres questions. Vous voulez me rappeler brièvement votre première question?
Au fond, la première question, c'était est-ce que pourquoi vous n'avez pas réagi avant? Est-ce que moi, je vais répondre à cette question parce que c'est moi qui ai invité M. Omar Koné suite au documentaire. Donc, il n'y a pas d'initiative directe de la part de M. Omar Koné par rapport à cet événement. Par contre, il y a une question qui est plus liée. Est-ce qu'il y a une mobilisation actuellement pour deux mandats et une intervention au niveau de l'organisation vis-à-vis du gouvernement de votre part ou non?
Non, pas directement de moi. Je pense que la réaction et la problématique des imams dans les mosquées en Occident est une problématique réelle. Il ne faut pas se cacher la face, à mon avis. Effectivement, choisir un imam sans clergé en islam n'est pas une chose facile, mais il faut bien comprendre les propos que j'ai tenus et il faut bien comprendre ma position ici. Je ne suis pas pour que l'État vienne dicter la façon de choisir les imams. Non, pas du tout. Je parlais simplement d'aider à un encadrement, d'aider à la formation des imams, de leur donner les outils nécessaires, mais également de s'assurer que dans le discours il n'y ait pas de dérapage, il n'y ait pas d'incitation à un certain nombre de choses qui par la suite va être une problématique pour les jeunes, va être une problématique pour les gens en difficulté qui vont se laisser monter par un certain nombre d'idées.
Et à ce niveau-là, juste pour appuyer vos dires, monsieur cher Romain Conné, c'est que si on prend à titre d'exemple au niveau des universités québécoises, dans le monde anglophone, au niveau de McGill, il y a quand même une grande école, un département qui fait de l'enseignement vraiment de la charia, donc de la religion musulmane. Mais par contre, si on revient dans le côté franco, on retrouve presque pas de professeurs. Il y avait Jean-René Milo qui est parti à la retraite de l'Université de Montréal et actuellement il y a Patrice Brodeur, mais on sait très bien que du côté catholique, l'Université de Montréal, dans le cadre de la faculté de théologie, permet d'offrir des cours dans le cadre de la formation des prêtres, ce qui n'est pas le cas de la communauté musulmane, à titre d'exemple. Donc je pense que c'est ce genre de choses qui pourra aider la communauté à avoir des ressources de formation locaux ici au Québec.
Bien entendu. Pourquoi pas? Nous avons déjà cela ailleurs au Canada. Vous allez au niveau de Toronto, vous avez des écoles qui forment des imams aujourd'hui, et ce sont des imams qui souvent ont été des jeunes, ont grandi, connaissent la réalité d'ici, et pourquoi ne pas avoir cette facilité-là? Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un encadrement militaire de la façon de penser. Vous ne pourrez jamais dicter la façon de penser sur un continent comme le continent américain au niveau doctrinal. C'est simplement d'aider les communautés à s'organiser, de leur donner les outils pour pouvoir pas simplement enseigner la religion, parce que un imam n'a pas simplement sa base religieuse pour pouvoir gérer les choses. Nous vivons dans une terre qui a tout un système, qui a un système de loi, qui a un système de valeurs, qui a différentes institutions pour pouvoir aider les gens. Il faut également que l'on puisse avoir recours à ça et savoir, lorsqu'on donne un conseil, est-ce qu'on ne contrevient pas à certaines lois? Par exemple, vous savez très bien ici au Canada que la violence conjugale n'est pas tolérée. Et celui qui témoigne de violence conjugale doit la dénoncer. La grande majeure partie des imams ne dénonceront jamais cette violence conjugale-là, parce que lorsqu'on va venir les voir, ils vont donner des conseils, demander au mari et ainsi de suite. Et pourtant, il y a des cas qui se font à répétition, et c'est littéralement être dans une complicité que de laisser ça perdurer, et les imams pourraient souvent être condamnés si jamais c'était traîné devant la justice ou si quelques situations malencontreuses arrivaient. Et beaucoup d'imams ne sont même pas au courant qu'il y a cette législation sévère par rapport aux témoignages sur la violence conjugale. Et ça pourrait être connu simplement dans des cours de formation d'aide sociale, parce que une partie de leur fonction est bien entendu à ce niveau. Lorsque je parle de nous, ce n'est pas pour nous en tant que moi représentant une communauté. Lorsque je parle de nous, c'est simplement la communauté musulmane dont je fais partie. Je n'ai jamais prétendu la représenter, je le dis et je le répète souvent. C'est une fonction, la fonction que j'ai, qui me permet parfois de rencontrer du monde, d'exprimer une certaine problématique de la communauté que je connais, qui est très diverse, mais je ne prétends pas représenter cette communauté-là, qui est très diverse. Les courants de pensée sont importants et tous ne sont pas religieux. Il faut rappeler que pour la communauté musulmane, peut-être certains ne se reconnaissent pas dans un imam, ne se reconnaissent pas dans quelqu'un qui a une position religieuse, mais lorsqu'on dit nous, on parle ce soir de la communauté des imams.
On va revenir aux appels. Je sais pas, il y a un troisième point. Parce que vous avez répondu à tous les points, monsieur.
Oui, je pense.
Oui. Donc, on va reprendre nos appels. Aloui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir, l'ami.
Oui, Belkacem.
Vous pouvez me permettre, puisque j'ai oublié un point très important tout à l'heure dans mon intervention, c'est que, comme on dit, Ahla Mekka adra bi sha'biha. Donc, puisque là on parle de représenter par représenter, c'est un problème organisationnel. Si on ne s'organise pas, si on ne se structure pas, donc nous, on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. Moi, à mon avis, il y a une solution. Comme en France, ils ont créé le Conseil national ou la Fédération des musulmans qui ont été élus démocratiquement, pourquoi pas ici au Québec ou dans toutes les provinces et au niveau national au Canada. Donc, créer une fédération ou un conseil des musulmans, et là, ces gens-là, parce qu'ils seront élus, ils pourront nous représenter dans tous les débats qui s'organisent au niveau des provinces ou nationales.
Merci Belkacem.
C'est ma question là que j'ai oublié tout à l'heure.
Merci Belkacem, je prends notre appel. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Monsieur Khdraoui, bonsoir.
Bonsoir Lamine et bonsoir Cheikh Omar.
Bonsoir.
Je vous félicite, Lamine, vous avez pris une belle initiative d'inviter des gens de calibre comme Cheikh Omar, que je connais comme un homme bien élevé et de haut niveau spirituel, à ma connaissance, mais je sais qu'il est beaucoup plus évolué là. Donc, c'était un plaisir de vous entendre tous les deux. Et je n'ai pas vu le documentaire. Allô ?
Vous êtes sur les ondes, hein ?
Allô ? Je n'ai pas vu le documentaire. Vous m'entendez ?
Oui, oui.
Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelques années, j'ai parlé de l'union des imams sur l'antenne. Et, je pense que c'est avec vous, Lamine.
Oui, je me rappelle. Oui.
Et j'avais suggéré que ça ne pouvait pas durer comme ça, que n'importe qui peut prendre toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de paroles, et n'importe qui à qui on donne le micro et qui va représenter la communauté, etc. Ça n'avait pas de sens. Et j'en ai même parlé, j'en ai glissé un mot à Cheikh Omar un jour.
Bien entendu.
Et comme la chose est très, très grosse, si on peut parler un peu, parce qu'il y a c'est beaucoup de travail, à mon avis, à mon humble avis, c'est la responsabilité de la communauté musulmane. Tant que les imams ne se sont pas réunis, ils doivent faire un travail de déblayage, ils doivent faire un travail d'organisation, ils doivent faire un travail d'épuration, à savoir quels sont les gens les plus compétents pour avoir une image claire, une image honnête de la communauté musulmane. On n'a pas fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas accuser les autres, là, quand même. Hein? Mais on ne peut pas quand même mettre ça sur la charge, par exemple, de Cheikh Omar, par exemple. Hein? Et je sais qu'il fait un travail colossal au niveau de la communauté musulmane. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que nous avons, comme musulmans, une responsabilité, surtout au niveau de nos représentants, qui sont les imams. Et tant qu'on n'a pas l'union des imams, par exemple, avec leur président, avec leur réunion régulière, au moins une fois par mois, et qu'ils fassent leur travail entre eux, on n'aura pas quelque chose de cohérent. Donc, pour finir, je remercie infiniment Cheikh Omar d'accepter l'invitation, et par sa belle présence et sa baraka, inshallah, nous allons arriver à quelque chose de beaucoup plus cohérent.
Merci beaucoup, monsieur Khdraoui. Cheikh Omar, en écoutant quelques interventions, c'est venu à mon esprit un point. Je pense que les gens confondent entre le désordre et qu'il n'y ait pas de clergé. Parce que le concept de l'ijaza dans l'histoire musulmane a toujours existé. Personne n'avait le droit dans l'histoire pendant 14 siècles de prendre la parole en tant qu'imam ou en tant que faqih s'il n'avait pas une ijaza de la part de Alm. Et je pense que quand on parle d'organiser les choses, ce n'est pas créer un clergé avec une structure hiérarchique, avec une autorité et même avec un accès dépendant de la position hiérarchique au niveau des textes sacrés. Là, on parle d'une ijaza à titre d'exemple, avoir des références qui peuvent donner l'autorisation à une personne de prendre la parole dans une mosquée. Et malheureusement, moi je prends l'âge de le dire, c'est un désordre total. Je peux le dire que demain, moi je vais louer un 4,5, je vais me déclarer imam et je serai un imam sans que personne ne vérifie parce qu'il y a deux choses et cher Omar pourra valider ça. Il y a la connaissance, il y a aussi l'aptitude individuelle. Est-ce que par mon comportement je suis apte à être un imam par rapport à mon historique aussi? Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez cher Omar?
Tout à fait, je pense que l'islam a toujours eu les mécanismes intérieurs pour la bonne gouvernance, pour la bonne doctrine, pour la bonne transmission, et nous avons perdu notamment au niveau du XXe siècle certains points de référence par rapport à la transmission du savoir. Effectivement, en islam, n'importe qui ne peut pas parler des concepts religieux et prendre une responsabilité sans avoir au moins une autorisation, sans avoir une référence, sans avoir été mis de l'avant par un certain nombre de savants qui ont donné la formation, qui ont donné l'éducation, mais surtout qui ont vérifié l'aptitude de la personne individuellement à comprendre les textes et à bien les transmettre. Parce que vous pouvez avoir l'individu le plus savant du monde qui a mémorisé les textes, qui a mémorisé le Coran et une bonne base de hadith, mais qui, dans sa compréhension, lorsqu'on arrive à la régulation, à la gestion des problèmes, ne comprend pas doctrinalement les choses de la bonne façon et va donner des solutions qui sont inadéquates. Donc, en islam, oui, vous pouvez avoir l'autorisation pour pouvoir parler, pour pouvoir enseigner, mais traditionnellement, vous avez cette autorisation qui est nécessaire. Lorsque vous voyez une personne aujourd'hui qui gouverne, qui parle au nom de l'islam, vous pouvez lui poser cette question. Au nom de qui, sous quelle autorité, qui vous a donné cette permission, parce que c'était comme ça que c'était traditionnellement. Donc la personne pourrait vous dire, j'ai suivi tel cheikh, tel imam, je suis diplômé de telle école, de telle université, j'ai eu tel curriculum et on m'a suivi, on m'a vérifié, on s'est assuré que j'ai la bonne compréhension de la religion. Parce que la religion est quelque chose, comme disait Seyyidina Omar, vous devez faire attention de quelle source vous la prenez. Car la source est bonne, elle vous donnera la vie, elle vous fera vivre. Mais si la source est corrompue, nécessairement, elle éteindra la lumière dans votre cœur et fera de vous quelqu'un de corrompu. Et nous l'avons vu dans l'histoire de l'humanité, nous l'avons vu dans l'histoire des musulmans, dans l'histoire récente des musulmans, que très souvent, surtout aujourd'hui, des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam sont commis selon des fatwas par des gens qui se disent autorisés à parler et pourtant qui n'ont pas cette ijaza, qui sont souvent autoproclamés, qui sont élus par un groupe local parce qu'ils ont sympathisé sur la tendance. Cette ijaza est importante. Il faut la faire vivre, c'est l'islam traditionnel, on ne peut pas se dégager de la façon dont le savoir a été transmis traditionnellement en islam, soi-disant qu'aujourd'hui il y a autre chose, et elle peut être faite de différentes façons.
Et bien sûr, cette notion de ijaza, je dirais qu'elle est standard et qu'elle n'est pas liée à une école, des écoles musulmanes.
Non, pas du tout.
Et à titre d'exemple, beaucoup de personnes, même dans la tendance salafiste, qui disent après avoir passé quelques années en Arabie Saoudite, mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Est-ce qu'elle est même en acceptant cette tendance, qu'elle peut coexister avec d'autres tendances, est-ce que réellement il a eu une formation qui lui a permis d'avoir cette autorisation, cette ijaza, pour pouvoir même parler au nom de la tendance ? Je pense que dans les écoles l'école soufie majoritairement, la tradition, cette tradition est maintenue d'une façon très forte, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas se proclamer imam dans ces écoles-là si on n'a pas vraiment une autorisation. Mais même dans les autres écoles, je pense pas que ce soit spécifique, parce que peut-être les auditeurs vont penser que c'est spécifique aux écoles dans cadre soufi, mais c'est une tradition, je peux dire, qui accompagne l'histoire de la théologie musulmane.
Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans certains cercles traditionnels, aller au Yémen, par exemple, aller en Syrie.
En Mauritanie, à Chinguetti.
Aller à Mauritanie, à Chinguetti, en effet, vous ne pouvez pas simplement arriver en disant, vous devez avoir vos lettres de référence, en disant, j'ai étudié dans telle école avec tel cheikh ou avec tel imam. Voilà, il m'a autorisé, il m'a suivi, il m'a accompagné. Pour s'assurer que dans toutes les choses de la vie, je comprenais les choses. Il faut se détromper, parce que l'islam a connu une certaine libéralisation, a connu des mouvements de pensée qui ont essayé d'aplatir un certain nombre de règles. Aujourd'hui, peut-être dans votre discours, on a l'impression, parce que les soufis ont gardé les formes traditionnelles de transmission de pouvoir, mais ce ne sont pas les seuls. Exactement. Vous allez dans les points les plus traditionnels qui ont gardé l'ancienne façon, vous retrouvez encore les mêmes principes de transmission de savoir.
Et je pense que ça n'a rien à voir avec la création d'un clergé.
Non, absolument pas.
Oui. Et je voulais quand même mentionner cette différence parce qu'elle est importante, parce qu'on a tendance, à chaque fois qu'on parle d'organisation, à chaque fois qu'on parle de mettre en place des procédures de validation de la compétence et donc du comportement inadéquat ou adéquat des imams, on nous sort la question de la non-existence du clergé dans l'islam, mais c'est pas de ça qu'on parle. On va prendre une pause publicitaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer avec nous à l'émission au 514-495-2597. Ce soir, on a le plaisir de recevoir cher Omar Kone à l'émission Taxi Maghreb pour parler de la problématique de la nomination des imams et de la gestion des mosquées à Montréal. Donc on va prendre plutôt une pause musicale et on va revenir, mais peut-être avant de prendre, j'ai un appel, je vais essayer de prendre l'appel. Je ne sais pas, non, il est parti. Donc je prendrai une pause musicale avec le Qada de Béchar, une belle chanson du sud algérien.
هذه في خاطركم يا ناس الغيوان
قاعدة بشار كيتي à Montréal dans le cadre du Festival du Monde Arabe. Bien sûr, un Festival du Monde Arabe avec une présence algérienne remarquable ces trois dernières années.
Love.
Meilleur Tawassul de Royal Air Maroc.
Mais comment? Rassembler les miles de toute la famille dans un même compte.
C'est une première.
Tu peux le dire. J'apprécie de plus en plus de voyager avec Royal Air Maroc. Dès notre adhésion à Tawassul, j'ai obtenu rapidement mon billet d'avion gratuit.
Avec Safar Fly Air Tawassul, le nouveau programme de fidélité de Royal Air Maroc, que vous preniez l'avion ensemble ou séparément, vous cumulez les miles sur un compte commun à toute la famille et accédez plus rapidement au billet d'avion gratuit. Alors n'hésitez pas, adhérez à Safar Fly Air Tawassul et profitez de cet avantage exceptionnel. Royal Air Maroc, les ailes du Maroc.
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb et sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et ce soir, on parle de la question des imams, leur nomination, l'organisation du culte musulman ici au Québec et au Canada. Est-ce qu'il y a réellement un problème ou non? Notre invité, donc, on a l'honneur de recevoir Cheikh Omar Kone, imam de la mosquée El Imen. Et bien sûr, il y a des auditeurs qui ont participé avec nous. Vous pouvez toujours le faire. On est avec vous jusqu'à minuit au 514-495-2597. Bien sûr, cette émission est une émission en réaction au documentaire qui était diffusé sur Radio-Canada tout au long du week-end, puisqu'il a été diffusé plusieurs fois. Cheikh Omar Kone, je poserai une question qui aura l'air d'une question du début d'émission. Est-ce que réellement il y a un problème? Parce qu'on a il y a quelqu'un, je pense que c'était Samir, qui avait dit que pourquoi vous réagissez, pourquoi il fallait attendre le documentaire de Radio-Canada pour réagir. Est-ce que les musulmans, la communauté musulmane, dans la vie de tous les jours, ne vit pas des problèmes liés à cette problématique de la nomination des imams?
Absolument. Ce n'est pas le documentaire qui a révélé le problème. Il faut savoir que le problème existe. Il a toujours été là. Les musulmans qui ont émigré en terre non musulmane lorsqu'ils arrivaient devaient avoir une représentativité religieuse. Ce reportage n'a fait que montrer peut-être à un public un peu plus large une réalité que la communauté musulmane vit au quotidien. Combien de cette communauté ont voulu un jour se référer pour une question quelconque à l'imam et ne se sont pas reconnus dans la réponse qu'ils ont reçue? N'osent pas aller voir l'imam parce que ils ne comprennent pas la tendance de l'imam qui est en face d'eux. Combien, comme le montrait ce reportage-là, combien de femmes ont trouvé que leurs maris sont devenus trop radicaux parce qu'ils fréquentaient certaines mosquées. On ne peut pas nier ce problème. On ne peut pas nier cette problématique. On ne peut pas tout simplement penser que on l'adresse simplement quand il y a un reportage. Je veux dire, au quotidien, dans leur gestion des différentes institutions, les imams sont confrontés à cela. Les imams sont confrontés aux différents problèmes linguistiques, aux différents problèmes à comprendre les lois locales, aux différents problèmes à communiquer entre eux. Ce n'est pas nouveau. Il y a des initiatives qui ont lieu. Il y a eu beaucoup de rencontres, peut-être qui ne sont pas médiatisées, mais il y a eu énormément de rencontres. Il y a des conseils qui sont en train de se former, il y a des initiatives de rassemblement pour traiter d'un certain nombre de questions. Il y a de la collaboration entre les imams de différentes institutions religieuses pour pouvoir régler des problématiques qui touchent. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, mais il y a un problème qui demeure. Les imams ne sont peut-être pas toujours qualifiés pour faire la fonction qu'ils font, parce qu'ils touchent à beaucoup de choses au niveau de la sphère de la société qui n'est pas simplement le fait religieux. Vous ne pouvez pas résumer la vie d'un citoyen simplement au fait religieux, parce qu'il doit travailler, il a des problèmes tous les jours, il a des enfants, il a des relations sociales. Donc on doit gérer tout cela, et on n'a peut-être pas tous les outils, mais il y a une possibilité d'améliorer ce que nous avons. Il y a une possibilité de travailler en collaboration avec les institutions, de travailler avec en collaboration avec l'État, sans remettre en cause donc la laïcité de l'État, sans devenir non plus essayer de comme disait, de mettre les imams sous tutelle. Non, absolument pas. C'est une collaboration comme elle existe, notamment avec d'autres communautés religieuses, parce que simplement l'État, oui, doit gérer les affaires des citoyens, même parfois au niveau de la foi.
Et Jérôme, quand on parle de la connaissance du contexte, on ne parle pas de spécialistes pour qu'ils puissent interpréter de nouvelles interprétations avec de nouvelles fatwas. On parle, à titre d'exemple, de connaître au moins le français ou l'anglais. On parle, dans le cas du Québec, c'est connaître le français. On parle du connaître, par exemple, les services offerts par le CLSC. Je dirais que parce qu'on attend, les gens pouvaient comprendre par le contexte, c'est une compréhension de l'histoire du Québec, avec tout le détail de l'histoire. Je pense qu'on ne peut pas exiger ça au début. Mais au moins, un imam, par exemple, qui ne connaît que l'arabe, est-ce qu'il peut être imam au Québec?
Je dirais que il peut guider la prière. Bien entendu, il peut faire l'exégèse des textes, donc parler de la question religieuse, mais lorsque ça vient à traiter du contrat social que les gens ont, des relations sociales, c'est un petit peu plus difficile. Parce que l'islam, où qu'il soit allé, a réussi à travers les différents siècles à adresser les sociétés où il allait. On n'a pas importé en Chine ou au Maghreb une version d'islam qui se vivait dans le cœur de l'Arabie. L'islam est assez large, est assez grand pour pouvoir adresser tous, sans pour autant toujours avoir un modèle monolithique, mais un modèle qui est flexible. Et avoir une fonction aussi large que la fonction d'imam aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que l'imam a beaucoup d'autorité, a beaucoup de pouvoir, doit être respecté pour ce qu'il fait, mais adresse tous les aspects de la vie des gens. Lorsqu'on se fait adresser tous les jours parce qu'on a des problèmes en milieu de travail, des problèmes de santé, des problèmes conjugaux, des problèmes tout simplement avec le voisin ou des problèmes émotionnels par rapport à un certain nombre de choses, et il faut pouvoir adresser tout ça. Donc c'est pour les imams de savoir qu'il y a un certain nombre de ressources, de connaître ces ressources-là, parfois de connaître également l'historique des peuples d'ici, c'est important. Comment vous pouvez comprendre la réaction aujourd'hui, par exemple, des Québécois, si vous ne connaissez pas l'histoire de la religion au Québec sur les deux derniers siècles et ce qu'a été la Révolution tranquille, d'où vient ce peuple-là, parce que ce peuple quand même nous a ouvert les portes, nous vivons parmi eux et aujourd'hui nous sommes à part entière des Québécois. Donc c'est certain que c'est une majorité, mais il y a un minimum de connaissances à avoir, notamment au niveau de la langue. Vous allez avoir dans votre mosquée des fidèles dont parfois la majeure partie ne parle pas arabe. Il ne faut pas se cacher la face. Vous rentrez dans des mosquées, c'est sûr que lorsque vous êtes en milieu arabe ou en milieu maghrébin, 90% de votre audience va parler arabe. Mais lorsque vous rentrez dans des mosquées plus grandes où vous avez des Pakistanais, des Africains, des Québécois ou des Européens ou des Asiatiques, le pourcentage de gens qui parlent arabe est plus faible. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne pouvez pas traduire les principes de la religion. C'est un principe fondamental en islam que de parler aux gens selon leur compréhension. Vous ne pouvez pas rester à un niveau supérieur, simplement garder un dialogue qui est propre, qui est noble, qui est l'arabe. Religieux, et ne pas pouvoir transmettre cette connaissance-là. La collaboration peut se faire à différents niveaux. Au niveau des différentes institutions, pour aider cela, pour donner les outils, pour donner de la formation. Ça peut être une collaboration dans les deux sens. Vous avez le ministère de la Santé qui parfois a besoin de références. Ils doivent traiter le cas de certains musulmans qui sont en institution. Lorsque vous avez un musulman qui est tout seul et qui est dans une phase terminale, qui n'a pas de famille, l'hôpital ne sait pas à qui s'adresser aujourd'hui pour avoir une compagnie religieuse pour ce patient-là, pour avoir, comme vous avez dans les hôpitaux, des aumôniers.
Des aumôniers, oui.
On se fait poser la question, mais à qui on doit s'adresser et comment on doit faire les choses? Vous avez parfois le ministère de l'Éducation demande un certain nombre d'informations. Nous voulons savoir comment faire telle ou telle chose. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc les imams, s'ils étaient beaucoup mieux outillés, avaient bâti peut-être des relations beaucoup plus importantes avec les institutions, auraient eu ce réseau de contact-là pour pouvoir à la fois recevoir donc des choses, mais à la fois donner de l'information, soutenir, aider les différentes institutions et les différents intervenants.
Donc je vais prendre un appel et après je reviendrai à notre donc invité, cher Omar Kone. Mohamed, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous êtes sur les ondes.
Merci d'avoir invité Monsieur Omar. Oui. Et merci pour vos émissions aussi. Aussi, vous traitez un sujet très important, celui des imams. Moi, je pense que c'est vrai, il y a un problème, mais il n'est pas aussi grave qu'on le pense, des imams, parce que chaque imam, il est en train de jouer son rôle. Pour moi, ils sont tous de bonne foi, mais chacun a ses interprétations. Comme Monsieur Omar, que je ne connais pas, que je l'ai vu juste dans une émission, je le salue pour son travail qu'il est en train de faire. Il est énorme. Mais un seul qui peut représenter vraiment les musulmans et l'islam, c'est le prophète. Donc on ne peut pas avoir un autre prophète pour représenter tout le monde. Mais les interprétations qui existent actuellement, chacun l'interprète selon son intelligence, mais la base, le fondement, la base, elle est là.
Mais Mohamed...
Moi, une fois, j'ai vu M. Omar à l'émission de télévision, donc je vais à sa gauche, une femme avec une tasse de vin. À sa droite, c'était un homosexuel. À la fin, il a donné un papier pour lire celui qui m'aime. Il me suit. Est-ce que vraiment un imam qui représente une communauté, il peut être aussi tolérant pour faire passer un message pour que nous, les musulmans, pour qu'il y ait cette place dans cette société, on doit aussi céder beaucoup plus. Pourquoi les rabbins, par exemple, ils disent le judaïsme comme ils le prennent prononcé, ils n'ont pas obligé de céder beaucoup pour se faire une place dans cette société.
Mohamed,
je vous remercie, au revoir.
Oui, merci beaucoup. Donc, cher Omar Kone.
Mohamed, merci beaucoup. Concernant cette question-là par rapport donc à la représentativité, en effet, le représentant le plus adéquat, le plus noble, le plus parfait est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute là-dessus, encore aujourd'hui, faut-il croire que son action est encore vivante, parce que bien des gens occultent complètement la personnalité du prophète de leur vie en disant que c'était un simple postier qui a amené son livre et qui est parti. Il ne fait plus partie de notre vie au quotidien, ce n'est plus notre modèle. Lorsque nous enseignons à nos enfants, lorsque nous parlons au niveau de la famille, lorsque nous devons régler nos problèmes, ce n'est plus son caractère que nous sortons, ce n'est plus son image que nous avons, parce que nous avons cette fameuse déconnexion. Par rapport à cette... je ne prétends pas représenter la communauté musulmane, je le répète. Par rapport à cette présence dans les médias que j'ai eue avec, comme vous dites, une femme qui avait un verre de vin à ma gauche et un homosexuel à ma droite, que vous voulez ou pas, vous vivez dans cette société. Nous devons, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir avoir des relations. J'ai accepté d'aller dans ce plateau parce que il y avait un problème important qui était sur les épaules des musulmans, qui étaient en train de se faire accuser de choses qu'ils ne faisaient pas, de choses qu'ils ne pensaient pas, de choses qu'ils ne disaient pas. L'islamophobie était en train de grandir. Nous avons eu toute une série d'événements qui faisaient que, au niveau des mosquées, les plaintes des différentes personnes qui rentraient étaient en augmentation fulgurante d'avoir été victimes de propos racistes, de propos haineux, de propos anti-islam. et il fallait arrêter cela. J'ai accepté de bonne foi d'aller dans cette émission-là. Le prophète nous a enseigné à être tolérants, à avancer vers les autres. Si nous devions toujours rester dans notre rectitude religieuse, jamais l'islam aurait été transmis aux compagnons. Si l'on veut parler d'un représentant, un représentant digne qui a été le prophète, les compagnons sont venus dans la présence du prophète alors qu'ils étaient parfois enivrés. Et ce n'est qu'à travers le temps que lorsque leur foi s'est bâtie, que les versets sont descendus pour interdire. S'il avait fermé la barrière dès le départ, très nombreuses personnes n'auraient jamais embrassé l'islam. Et nous avons malheureusement aujourd'hui oublié ce message de tolérance, ce message d'ouverture qu'a montré la couronne des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre son modèle d'approche lorsque nous devons intervenir, lorsque nous devons interagir avec des communautés qui ne sont pas musulmanes. Il faut avoir cette compréhension-là. Si vous ne pouvez pas arriver au niveau de la compréhension des gens pour pouvoir leur adresser, de faire une certaine ouverture pour pouvoir les recevoir, leur montrer que vous êtes comme eux et vous avez quelque chose de vivant dans votre cœur, vous avez l'islam. Si vous ne pouvez pas ouvrir cette porte, ouvrir ce dialogue-là, ça ne passera pas, ça ne passera jamais. Vous allez créer une cloison qui est imperméable. Et le premier à avoir enlevé les cloisons pour recevoir tous a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de l'islam, qui a reçu des compagnons qui étaient dans l'ignorance, qui étaient dans des mœurs qui n'étaient pas religieuses, qui n'étaient pas musulmanes. Pourtant, il les a côtoyés, il les a partagés, et tranquillement, il leur a appris les valeurs de l'islam, les valeurs nobles que nous avons aujourd'hui. Donc c'est une intervention qui a été faite de bonne volonté pour essayer de ramener peut-être un peu de tranquillité. Ça a eu un certain effet, ça a eu son effet. C'était une intervention qui était surtout dirigée pour la communauté locale d'ici, ce qu'on peut appeler entre guillemets les Québécois de souche, et non pas pour les musulmans, pour essayer d'apaiser tout le brouhaha, toute la discorde qui avait été semée sur les musulmans et qui commençait à nous rendre la vie dure à vous et à moi.
Cher Omar Kone, on arrive à la fin de notre émission. Je vous demanderai le mot de la fin, que comme Khadraoui a dit, peut-être ça va donner de la baraka pour que cette communauté s'organise d'une façon plus efficace.
Je pense qu'il est important que les musulmans regardent au niveau de leur tradition, reconnectent un peu avec l'esprit de leur tradition. L'islam est riche, l'islam à travers les siècles a apporté la lumière et énormément de choses aux gens. Cette union au niveau de la communauté, la bonne représentativité et la bonne gouvernance, donc la nomination de bons imams, c'est un travail de tous, c'est un travail de toute la communauté qui doit se réunir autour d'un projet, un projet unique. Nous avons un projet de vivre ensemble selon une religion qui est harmonieuse, qui est de tolérance, et surtout de ne pas se cacher la face par rapport aux problèmes qui existent. La communauté musulmane à travers le monde a des problèmes. Nous avons des problèmes de doctrine qui ne correspondent pas à l'esprit de l'islam aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher là-dessus. Il ne faut pas se cacher non plus de régler nos problèmes, de les adresser. Mais il faut retourner à la tradition, retourner aux sources, peut-être de voir ce qu'a été l'esprit prophétique dans sa pure noblesse lorsqu'il nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, cette religion magnifique.
Une dernière question, cher Omar Kone. Est-ce qu'on peut être imam en ayant une très grande bibliothèque?
Absolument, bien sûr. Et quoi de mieux d'ailleurs, parce que les imams sont habituellement des gens qui sont toujours plongés dans le savoir, qui sont toujours à la découverte d'autres choses, pas simplement des sciences de l'islam, mais de l'intégralité du savoir.
Merci beaucoup. Donc c'était cher Omar Kone qui nous a fait plaisir d'être parmi nous pour nous parler de cette problématique de la nomination des imams dans les mosquées à Montréal et à travers le monde. Cher Omar Kone, merci beaucoup de votre présence.
Merci à vous Lamine, salam alaikum.
Merci beaucoup. Donc c'est la fin de notre émission pour nos amis de la communauté haïtienne. Tambou Bâton arrive dans quelques instants, soyez patients. pour les auditeurs de Taxi Maghreb, on arrive à la fin de l'émission. Merci à ceux qui nous ont appelés. Merci à Jérôme Malcolm d'être parmi nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à minuit. On arrive à la fin de notre émission. Notre émission qui va revenir comme d'habitude dans 2 semaines.